Bonjour madame, bonjour monsieur. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour cette conférence qui finalement ne se tient pas en physique. Nous allons donc parler ce soir de l'éducation sexuelle à l'école. Qu'est-ce qui est dit à vos enfants? Qu'est-ce qui leur est exposé, vos enfants et vos petits-enfants, que ce soit dans le public ou dans le privé sous contrat? Alors, tout d'abord, le contexte. Ce que disent la loi et les textes. D'abord, vous l'avez certainement déjà entendu, l'éducation sexuelle, alors elle est dite selon les cas, éducation sexuelle ou éducation à la sexualité, c'est très à la mode depuis quelques années dans les textes divers et variés, ou éducation affective, relationnelle et sexuelle. Autrement dit, EVARS, qui est un acronyme qu'on voit de plus en plus, l'éducation nationale appréciant beaucoup les acronymes. Cette éducation sexuelle donc est obligatoire depuis la loi du 4 juillet 2001, qui était, je le signale en passant, en fait une loi sur la contraception et l'IVG. Elle doit être de 3 séances par an dans chaque classe et du primaire jusqu'à la fin du lycée. Alors sur le primaire, à vrai dire, il y a une certaine ambiguïté dans les textes et certaines contradictions. C'est surtout depuis 2018 qu'il est précisé dans une circulaire que c'est à partir du CP. Les principes qui sont indiqués pour cette éducation sexuelle sont donc les valeurs humanistes de liberté, d'égalité et de tolérance, de respect de soi et d'autrui. Donc, c'est déjà tout un substrat philosophique. Elle doit trouver sa place à l'école dans un esprit de laïcité. De neutralité et de discernement. Les mots qui m'intéressent beaucoup ici sont aussi neutralité et discernement. On voit qu'il y a une certaine prudence puisque c'est le premier paragraphe de la dernière circulaire sur l'éducation sexuelle. Donc théoriquement, il n'y a pas d'engagement, de militantisme, etc., etc. Et le discernement, alors c'est pas forcément la chose la mieux partagée du monde, mais en principe, il y a une attention à cette question. Et jusqu'à présent, cela s'applique au public comme au privé sous contrat, avec là encore une certaine ambiguïté, parce que le privé sous contrat a un peu de marge de manœuvre à différents égards, et j'y reviendrai. Alors, les objectifs concrets, officiels, c'est donc la connaissance du corps et de la reproduction, qui est le terme employé. La prévention des IST et des grossesses précoces. Alors, ça veut dire préservatif pour la prévention des IST. Ça veut dire aussi pour les grossesses précoces non désirées. Ça veut dire aussi contraception, pilule du lendemain, IVG. On a également la prévention des violences sexuelles et sexistes, la lutte contre les discriminations, c'est-à-dire la lutte contre le sexisme, le fameux patriarcat. La lutte contre l'homophobie, la transphobie, enfin bref, toutes les LGBT-phobies. On note que là, il y a une espèce de mélange entre des sciences, le corps et la reproduction, une volonté de prévention en termes de santé, avec un malheureux mélange, la mise sur le même plan des IST et des grossesses. Et puis, il y a ensuite un état d'esprit, un aspect beaucoup plus politisé n'est pas forcément le bon terme, mais qui vient rejoindre en tout cas des revendications et des réclamations venant d'associations très actives. Alors, à ce jour, depuis 2001, il n'y a pas de programme, il n'y a rien d'officiel, il y a simplement une dernière circulaire qui date de 2018 qui donne des recommandations générales. Ce sont un peu des bonnes intentions, des recommandations. Mais ça n'est pas très long, ça n'est pas très précis. Il y a eu, vous le savez, vous avez dû entendre parler, pardon, la circulaire sur l'accompagnement des enfants transgenres, dite circulaire Blanquer de 2021. Théoriquement, cette circulaire, elle ne concerne pas directement l'éducation sexuelle, mais évidemment, cela traduit un état d'esprit qui reconnaît les identités de genre, les transitions, qui en prend acte en quelque sorte, qui considère qu'il y a des enfants trans. Cette éducation sexuelle, elle est mise en œuvre en SVT, sciences de la vie et de la terre, autrement dit en biologie. Elle est mise en œuvre aussi en éducation civique et morale. Elle peut être abordée dans d'autres disciplines. Par exemple, en français, on peut évoquer en littérature des histoires d'amour et on va parler de sexualité. On peut, en histoire, parler de la place de l'homme et de la femme dans la société. Donc, il y a un côté potentiellement transversal. Et puis, dans la mise en œuvre, théoriquement, ce sont les enseignants, cela peut être d'autres acteurs de l'éducation nationale, par exemple l'infirmière scolaire, c'est ouvert également aux associations partenaires. L'association partenaire par excellence, qui a un contrat avec l'éducation nationale, c'est le planning familial. Et puis, vous avez aussi des associations qui ont un agrément du ministère de l'Éducation nationale ou des rectorats. Alors, pour le moment, je vais passer en revue avec vous simplement des supports, des contenus qui sont utilisés, diffusés ou recommandés aux élèves. Et puis, nous verrons un peu l'arrière-plan plus philosophique qu'il y a derrière. Philosophique, voire en fait idéologique, évidemment. Alors ça, c'est un petit extrait d'une petite capture d'écran d'un manuel d'éducation morale et civique qui vient de l'éditeur Attier. Je vous rassure tout de suite, si je puis dire, hein, tous les éditeurs comportent ce même type, enfin proposent ce même type de contenu pour être précise, depuis l'année 2011. Donc vous voyez ici, sexe, genre et sexualité, il ne faut pas confondre le sexe, définit notre identité biologique avec le genre qui est notre identité culturelle. On a cette déconnexion prétendument entre le biologique et le, même pas le psychologique, mais donc la manière dont nous nous présentons socialement. Un autre manuel d'éducation civique et morale également, donc sur les, qui est plus précis, hein, sur le sexe et l'orientation sexuelle. Donc, on a le sexe biologique avec les caractéristiques diverses et variées. Le sexe assigné à la naissance, des termes très idéologiques qui sortent tout droit des études de genre. Et étonnamment, en apparence étonnamment, ils ne mettent pas dans le même, tiré le sexe assigné à la naissance et le sexe biologique. Pourquoi ? Parce que, effectivement, quand un enfant naît, on constate le sexe et on ne fait pas des recherches chromosomiques, hormonales, génétiques, on ne vérifie pas. On considère qu'on peut constater si c'est un petit garçon ou une petite fille. Et il arrive, mais c'est extrêmement rare, mais vraiment extrêmement rare dans la population. Je parle de 0,01% des naissances, 0,01% des naissances. Il y a des enfants qui... à l'adolescence, des petites filles, à l'adolescence, leurs règles ne surviennent pas. Et quand on fait des recherches, on s'aperçoit qu'en fait, elles sont des garçons insensibles à la testostérone et donc elles n'ont pas développé les organes sexuels masculins. Mais comme elles sont quand même des garçons, elles n'ont pas non plus d'utérus, d'ovaires, etc. Et puis, vous voyez, le fait de se sentir fille ou garçon, ni l'un ni l'autre ou les deux, a parfois appelé identité sexuelle, et c'est ce qu'aujourd'hui, plus couramment, on appelle souvent identité de genre. Enfin, etc., nous sommes également en classe de quatrième et on voit se développer toutes ces notions tout à fait idéologiques et qui ne sont pas scientifiques, mais qui sont, disons au mieux, des hypothèses posées en sciences humaines dans les gender studies, dont malheureusement, nous ne pouvons que constater qu'elles sont systématiquement idéologiques et qu'elles font comme si elles étaient incontestables scientifiquement parlant, comme si c'était une science humaine, une science dure qui n'ouvrait pas à débat et à interprétation. Là, nous sommes en seconde et on voit étonnamment l'identité de ce pauvre pantin se complexifier encore. Vous voyez d'ailleurs qu'il a au creux des reins, le symbole trans. Nous voyons écrit en dessous « sexe ». Selon la loi, c'est le sexe assigné à la naissance en fonction de l'apparence des organes génitaux externes. Donc, vous voyez, là, on n'est que dans un sexe qu'on impose pour des raisons qu'on verra plus tard et en fonction de l'apparence. Donc, il y a une distance qui est prise entre la réalité de l'identité sexuée et ce qui est déclaré sur un enfant à la naissance. Et son identité, enfin son sexe, eh bien, dépend de son identité, se sentir homme ou femme. Donc, vous voyez que l'identité, c'est le fait de se sentir homme ou femme, c'est pas le fait d'être homme ou femme. Et puis après, il y a l'expression plus ou moins féminin ou masculin, l'attirance émotionnelle, l'attirance sexuelle, et tout en bas, à chacun d'ajuster ses curseurs, de pas du tout à complètement sur tous ses curseurs. On ne peut que plaindre nos pauvres élèves obligés de s'y retrouver dans ce fatras d'identité. Ça veut dire que ces manuels scolaires déconnectent les différentes dimensions de la personne humaine les unes des autres entre le biologique, le psychologique, le culturel, le social, le désir, comme si ces dimensions, comme si nous n'étions pas une seule personne et comme si ces dimensions n'étaient pas en principe toutes cohérentes les unes avec les autres. Dans les manuels également, l'éditeur précédent, c'était Nathan, donc là en classe de seconde, et puis à nouveau ici, Atier et Nathan, ce sont des pages, des photos de pages en fait, qui vous montrent cette fois-ci non plus le contenu sur le fond, mais le fait que les manuels scolaires renvoient les élèves, donc de 4e et de 3e, renvoie à des sites internet, en l'occurrence onsexprime.fr, qui est entouré sur le visuel de droite. Vous trouvez aussi Fil Santé Jeune, également recommandé donc aux élèves dans les manuels scolaires. Et à gauche, vous avez également le planning familial qui est recommandé aux élèves. Alors, les manuels scolaires sont les mêmes dans tous les établissements, enfin chaque établissement choisit son manuel parmi une série de manuels, mais ils ne sont pas très nombreux et on trouve dans le privé ou dans le public des manuels de tous les éditeurs. Et c'est aussi par ce biais-là que dans le privé sous contrat, eh bien ces mêmes contenus sont donc exposés aux élèves. Alors on peut espérer qu'il y a plus de discernement. Et que les élèves ne sont pas invités à explorer ces pages et à les suivre à la lettre. Alors, puisque je parle de onsexprime.fr, je vous propose quelques visuels du contenu de ce site internet. Donc, le sexe et le genre, est-ce que c'est pareil? Vous voyez, c'est cette rubrique. Sachant que, théoriquement, au début des gender studies, des études de genre, quand on disait qu'on étudie le genre, ça voulait dire l'expression de mon sexe féminin ou de mon sexe masculin, la manière dont l'homme et la femme se comportent dans la société, suivant les époques, suivant les sociétés, suivant les lieux. En principe, il y a donc, je le redis, adéquation entre le sexe et le genre. Certes, la manière dont s'exprime le féminin et le masculin, par exemple à travers les vêtements, les coiffures, peuvent être différents suivant les époques, mais on retrouve dans toutes les sociétés une différence marquée entre l'homme et la femme dans l'expression culturelle de leur sexe, autrement dit leur genre. Et vous avez de très rares sociétés, des sociétés qui en général n'ont pas évolué depuis des siècles, voire des millénaires, on trouve très rarement une certaine confusion ou en tout cas des différences qui ne sont pas marquées de la même manière que chez nous, ce sont vraiment des exceptions qui confirment la règle. Je l'évoque parce que ça sert parfois de prétexte aux militants de l'identité de genre et donc ensuite de la transidentité et des transitions. Donc toujours sur onsexprime.fr, la question que les élèves sont invités à se poser est de savoir s'ils sont trans, de savoir éventuellement s'ils sont non-binaires. Non-binaire, c'est-à-dire s'ils ne se reconnaissent pas dans la division de l'humanité entre hommes et femmes. Le mot sexe vient du latin sécaré, c'est-à-dire que l'humanité est séparée entre hommes et femmes. Donc, être non-binaire, c'est s'inscrire sur les fameux curseurs que nous avons vus tout à l'heure. Je vous demande pardon, j'ai oublié de vous préciser que le site onsexprime.fr est recommandé tout à fait officiellement à partir de 11 ans à nos enfants. Vous avez donc ce long développement, c'est quoi être non-binaire? Alors, on peut être agenre, gender fluide, on peut être pan-genre. Enfin, finalement, il peut y avoir autant de genres que de personnes, puisque tout est une affaire de ressenti profond. Donc, on est complètement dans le subjectif et on a quitté le domaine de l'objectif et du fait, j'allais dire, du fait scientifique. Et du fait scientifique, du fait objectif, il faut qu'on sait qui l'on est et on sait qui est l'autre, et on peut donc vivre avec soi-même et on peut vivre en société. Alors, il s'agit ici de vous montrer que ce qui est formidable, c'est qu'en passant des manuels scolaires au site officiel labellisé de la République française, on s'exprime, eh bien, les élèves sont éventuellement invités, s'ils le souhaitent, à appeler la ligne Azur, à appeler éventuellement des associations LGBT, à appeler des associations comme Outrans, ou encore Filles, Santé, Jeunes, que nous allons voir dans quelques instants. Ce sont autrement dit, pour ce qui concerne la ligne Azur, les associations LGBT, Outrans ou Espace Santé Trans, ce sont des organisations militantes qui ne sont évidemment pas du tout dans la neutralité. Elles sont militantes, elles sont politisées, elles sont idéologisées, elles portent des revendications sociétales. Et elles ont une analyse de la personne humaine et de la société qui sont source de débats, sont source de polémiques, sont source de désaccords. Autrement dit, rien de neutre ou d'anodin, évidemment. Au passage, d'ailleurs, vous pouvez voir que le site On s'exprime propose tout en bas un chat, c'est-à-dire que les enfants peuvent discuter avec un adulte, un répondant de manière complètement anonyme et un chat a un caractère instantané qui fait que les parents ne peuvent pas savoir avec qui l'enfant a échangé et ce qui a été dit, ce qui est tout à fait anormal, les parents ayant l'autorité parentale, évidemment. Alors, un autre aspect de ces supports d'éducation sexuelle actuellement utilisés, c'est l'aspect qui concerne la pratique sexuelle. Et vous voyez que l'une des questions de ce site Internet, donc à partir de 11 ans, pose des questions très explicites. L'orgasme, c'est quoi et comment en avoir un? Qui veut gagner du plaisir? Ça, c'est un petit jeu. Pour améliorer tes performances sexuelles, que choisis-tu? Et vous pouvez constater qu'en termes, donc c'est un site à partir de 11 ans, en termes de discernement, on est très très loin de ce qu'on aurait dû et pu attendre de responsables auxquels nous confions nos élèves, les élèves. La mission de l'éducation nationale et même en éducation sexuelle n'est pas d'apprendre aux enfants comment trouver du plaisir, comment stimuler leur plaisir et comment améliorer leur performance sexuelle. Vous avez même une petite série YouTube qui est accessible à partir du site onsexprime.fr où vous avez des modes d'emploi, des vidéos. Et vous voyez là, c'est dans la veine de ce qui précédait, vous avez les zones érogènes et comme c'est très, 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 très détaillé, on vous indique même des petits points précis, on vous les mentionne. Et puis, il y a d'autres suites dans la vidéo pour expliquer qu'il y a d'autres zones érogènes également. Donc, vous voyez qu'on rentre dans les détails avec des objectifs qui sont très, très loin de l'éducation. Et même de l'éducation sexuelle qui est supposée mettre en œuvre l'éducation nationale. Alors ça, c'est une campagne de communication qui a été très diffusée dans les établissements scolaires, une campagne du planning familial dont je vous ai sorti deux exemples. Savoir que j'ai le droit de jouer dans la cour de récré, c'est bien. Savoir que j'ai le droit d'avoir plusieurs amoureuses aussi. Alors évidemment, amoureux.euse. Bien sûr, écriture inclusive. Et donc, le polyamour, c'est formidable. Et surtout, d'en parler très jeune, c'est d'après eux, tout à fait pertinent. Et l'autre exemple, aimer autant les maths que le français, c'est possible. Être bisexuel aussi. Donc, on voit bien également que tout ce contenu explore, explique et détaille les différentes orientations sexuelles et puis ça va très loin, vous allez voir, en termes de pratiques sexuelles, avec tous les détails qui vont bien, les positions, avec des termes que bien des adultes n'ont jamais en leur vie, et puis avec toutes les techniques très précises pour, parce que tout cela est au motif de la prévention vis-à-vis des IST et des grossesses précoces. Alors, un autre exemple ici de mise en risque des enfants aussi. Là, c'est un petit. Donc, on est sur Fil Santé Jeune. Alors, Fil Santé Jeune, théoriquement, est recommandé à partir de 12 ans. Mais vous voyez ici que ce petit questionnaire, quel est ton âge? On peut cocher moins de 12 ans. Et la question qui est posée pour ceux qui ont moins de 12 ans dans ce petit exercice, c'est pas très lisible, pardonnez-moi, je vous le lis. J'envoie un nude à quelqu'un qui me plaît parce que parce que je pense que ça va l'exciter, mais sans lui demander son avis. Est-ce que j'ai le droit? Et alors, la réponse attendue, c'est que non, je n'ai pas le droit. On n'envoie pas un nude à quelqu'un sans lui avoir demandé son consentement. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont même pas pensé à dire à un enfant ou à un ado ou à un jeune, on n'envoie pas de nude. Point. On sait à quel point tout peut sortir, et de toute façon, c'est pas une activité pour les jeunes, naturellement. Malheureusement, un certain nombre mènent ce genre font ce genre d'envoi. Pour commencer, ils ne doivent pas faire ce genre d'envoi, ce qui fait qu'ils n'ont pas besoin de demander à quelqu'un son consentement ou pas son consentement pour le lui envoyer. Et il y a eu beaucoup d'affaires de harcèlement, des harcèlements sexuels dans les établissements scolaires, suite à des nudes qui ont été envoyés et qui ensuite ont circulé. Donc, la première des choses, évidemment, c'est de demander à des jeunes, d'inviter des jeunes à ne pas envoyer de nudes. Un autre exemple, toujours de ce site Fil Santé Jeune, c'est la question du sexe tarifé. Alors, cette page, publiquement intitulée « La sexualité, un produit comme un autre », parle donc du sexe tarifé, en clair parle de la prostitution. Alors évidemment, je ne vous ai pas mis le visuel de toute cette page, mais elle ouvre un petit débat sur la prostitution. Il y a des personnes qui sont pour la prostitution, des personnes qui sont contre la prostitution, enfin contre les maisons closes. Il y a un petit débat. Et puis, la conclusion est la suivante, c'est celle que vous avez à droite. Reste la question morale. La prostitution, est-ce que moralement c'est bien, c'est neutre, c'est mal? À cette question, dit-on aux enfants, hein, à partir de 12 ans, chacun jugera selon ses valeurs. Nous, sur Fil Santé Jeune, on s'abstient. On n'est pas là pour en juger ni te juger, quelles que soient tes opinions sur la question. Tout ce qu'on peut faire, c'est être là pour toi en cas de pépin. Voilà tout ce qui est dit aux enfants. Autrement dit, si tu as envie, vas-y. Si tu as des ennuis, on sera peut-être là. Vu la qualité de leurs conseils, c'est évidemment surtout pas le recours qu'il faudrait avoir. Enfin voilà, ils ne sont pas capables de dire à des ados, des pré-ados et des ados, que évidemment on ne se vend pas, et ils ne sont pas capables de qualifier correctement ce qu'est une prostitution. Et en rappelant qu'il s'agit théoriquement de l'un des supports officiels d'éducation sexuelle. Alors, faire l'amour à plusieurs, c'est une autre page de ce fil internet, pardon, de ce site internet Faire l'amour à plusieurs. Cette page Faire l'amour à plusieurs, le polyamour, mais c'est bien dit de manière encore plus claire. Je vous lis le début. Orgie, partouze, plan à trois, toutes ces expressions intriguent, fantasme, curiosité, peur, dégoût, le sexe à plusieurs suscite toujours beaucoup de débats. À deux ou à plusieurs, comment le sexe se pratique-t-il dans le respect de l'autre? Trois, quatre, cinq ou plus, pourquoi faire? Les relations sexuelles peuvent se pratiquer à plusieurs, c'est-à-dire à plus de deux. La plupart du temps, la sexualité se passe en duo, mais on peut fantasmer de rajouter un troisième élément, etc., etc. Et puis, vous avez les termes de trionisme, de plan à trois. On parle le plus souvent d'orgie. Enfin, bref, on leur donne dans ces support supposé éducatif, des idées diverses et variées. Il parle aussi sur ces sites hein, du chemsex, donc le sexe et la drogue. C'est généralement au motif de la prévention, mais en fait, on donne des idées aux jeunes. Par exemple, sur le chemsex, c'est ce qui a conduit Pierre Palmade à avoir un accident de voiture gravissime. Le chemsex, il est indiqué aux jeunes, je n'ai pas fait de photo, fait de capture d'écran, mais pour le chemsex, il est indiqué aux jeunes qu'il peut y avoir des dangers,
il peut y avoir des dangers pour leur santé. Et éventuellement, ils peuvent appeler à l'aide avec des numéros verts. Mais enfin, non seulement on leur donne l'idée, mais on ne leur dit pas pour telle et telle et telle raison, le chemsex, ne serait-ce que pour la consommation de la drogue d'ailleurs aussi, c'est une pratique auquel il n'est pas question de recourir. Donc, il n'y a aucune précaution, sécurité, bien au contraire. Si je résume, donc la sexualité vue par l'éducation nationale, vous l'avez compris, c'est un exercice de gymnastique, rien de plus. Sur tous ces écrans, on ne parle pas d'amour, on ne parle pas de la différence entre l'amour et l'amitié, on ne parle pas de maîtrise de ses pulsions, de maîtrise de soi. On parle du respect de soi et de l'autre un petit peu, mais ce respect va passer par la notion du consentement, alors qu'on sait à quel point le consentement peut être manipulé, peut être fragile, et l'éducation nationale estime que le consentement est la clé de voûte d'une sexualité qui sera formidablement efficace et maximisera le plaisir, et il n'y a pas d'autres paramètres qui soient envisagés. Par ailleurs, donc je le disais, un exercice de gymnastique qui n'a rien à voir avec les sentiments, qui ne suppose pas d'attendre le cas échéant, et rien qui évoque la possibilité de donner la vie, si ce n'est le risque de grossesse précoce. Et donc, le fait qu'une jeune fille, une jeune femme, puisse tomber enceinte, puisse porter la vie, donner la vie, devenir mère, que tous ces jeunes qui vont pour la plupart être concernés par la maternité ou la paternité, eh bien, il n'est pas du tout prévu de leur évoquer, de leur en parler, de leur donner envie un jour de devenir père et mère. Et on comprend pourquoi les jeunes aujourd'hui sont si peu attirés par la paternité et la maternité. Par ailleurs, ce sont donc... Vous avez vu tout à l'heure l'écran de la vidéo où on voyait des personnes nues, un homme et une femme nues, et sur la tête des espèces de cartons cachant leur tête. Et donc finalement, ce sont des personnes réduites à leur sexe et au plaisir sexuel qui sont réduites et instrumentalisées, en s'instrumentalisant soi ou en instrumentalisant l'autre. Ce sont des corps qui n'ont pas de sens et pas de portée du point de vue de la féminité, de la masculinité ou justement de la procréation. Quels que soient les corps en question, eh bien, il ne signifie pas qu'on est homme ou femme ou qu'on est une préadolescente qui va devenir une femme ou un préado qui va devenir un homme. Et donc, je le disais, les IST et grossesse précoce mises sur le même plan, comme si la grossesse était... aussi dangereuse qu'une IST, comme si on pouvait comparer des sujets très très différents les uns des autres. Alors, l'arrière-plan, vous l'avez bien compris, bien sûr, c'est de considérer que, ce qui est le cas de l'idéologie du genre, plus largement du wokisme, alors le wokisme inclut d'autres aspects idéologiques, mais enfin, c'est pour une bonne part l'idéologie du genre. Dans l'idéologie du genre, on considère que l'homme et la femme ne sont que des constructions sociales et culturelles. On impose un sexe aux garçons et à la fille, et par les stéréotypes de genre, petit à petit, on va les éduquer à être pour les femmes soumises et donc pour les hommes en position de domination. C'est ce qu'on appelle le patriarcat, le sexisme, et c'est tout l'intérêt des constructions sociales et culturelles et tout l'intérêt d'assigner des sexes à la naissance. Autrement dit, on va contre la liberté des enfants puis des adultes, on va contre leur liberté, et parce qu'on veut créer une hiérarchie entre les sexes et pour assurer le pouvoir de l'homme. Et alors, dans le wokisme plus largement, on considère qu'il en est de même entre les blancs qui domineraient les personnes de couleur, les hétérosexuels qui domineraient les personnes LGBT, etc. etc. C'est la même idée de hiérarchie de sociétés, de cultures qui, de manière systémique, instaurent des statuts différents et des statuts de dominants dominés. Par ailleurs, dans cette idéologie, on considère que par essence, la femme est victime. Parce qu'elle est femme, elle est victime, à la limite, même si elle n'a pas été victime concrètement, elle est quand même de toute façon une victime. Et même si elle n'en est pas consciente, elle est victime parce que dans la rue, il y a moins de place pour la femme, parce que dans la cour de récréation, il y a moins de place pour la petite fille. Elle est victime, elle ne choisira pas ce qu'elle veut faire plus tard et elle sera moins bien payée un peu plus tard. Alors, comme souvent, d'ailleurs, il y a parfois du vrai, il y a des injustices, il y a des violences, il y a peut-être encore une certaine égalité salariale, encore qu'il faudrait regarder de plus près, parce que c'est pas entre les femmes et les hommes, c'est en vérité entre les mères et les autres. Passons. Mais enfin, il y a des violences, c'est vrai. L'homme serait donc coupable et coupable parce qu'il bénéficie partout et tout le temps des avantages liés à la supériorité supposée de l'homme, et même s'il n'a pas été activement auteur de violence à l'égard d'une femme, il l'est en fait parce qu'il est homme. Donc, pour mettre fin aux inégalités, il faudrait que chacun définisse librement son identité de genre. Ce serait la garantie de l'égalité et de la liberté de chacun. Et définir librement son identité de genre, c'est éventuellement transitionner s'il n'y a pas adéquation. On peut avoir envie de changer de sexe, enfin de changer de genre, donc juste de prénom, de nom, de vêtements, de style, ou alors on peut aller jusqu'au changement, apparent, changement de sexe à travers des opérations dites de réassignation sexuelle. C'est tout cela qui est donc déroulé à travers ces supports, en sachant que remettre en cause auprès des enfants, leur faire mettre en doute ce qu'ils sont garçons et filles et ce qu'ils deviendront hommes et femmes, c'est évidemment les déstabiliser, c'est utiliser leur vulnérabilité, éventuellement leur mal-être, au lieu de les aider à être bien dans leur peau et à affronter la vie avec sérénité. C'est aussi les mettre en danger, et l'on sait que beaucoup d'établissements scolaires, et là encore du public, mais parfois aussi du privé, ont dans leur rang des élèves qui veulent transitionner. Et quand certains rentrent dans l'engrenage du changement, de l'annonce d'un changement de genre et du changement de prénom, de pronom, ils rentrent dans un engrenage dont ils ont du mal à sortir pour toutes sortes de raisons, d'emprise. Eh bien, quand ils passent au bloqueur de puberté, ces bloqueurs de puberté, au bout d'un certain temps, ont des effets irréversibles et la puberté ne se fera jamais véritablement. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses, mais tout cela pour dire qu'il y a un danger véritable, incontestable, présenter tout ce déroulé, évidemment, aux enfants. Je voulais vous parler aussi de l'influence d'un certain Alfred Kinsey. Alfred Kinsey était donc un Américain qui était professeur d'entomologie et de zoologie. Alfred Kinsey est considéré comme l'un des fondateurs de la sexologie. Il a publié ce qu'on appelle les rapports Kinsey, qui est constitué de deux parties, le Sexual Behavior in the Human Male, donc le comportement sexuel chez le mâle, on est donc sur le pur biologique, et le comportement sexuel chez la femelle humaine. C'est des termes sympathiques pour parler des hommes et des femmes. Ces rapports ont eu un retentissement considérable à l'époque où ils sont sortis, parce que ils, entre guillemets, révélaient que dans la société américaine, il y avait non pas une très grande majorité de personnes hétérosexuelles. D'ailleurs, à l'époque, on parlait même pas de l'hétérosexualité, c'était un terme qu'on n'employait pas. Il a d'ailleurs été introduit dans le dictionnaire de l'Académie française il y a tout juste quelques mois. En principe, on était ce qu'on était, c'est-à-dire généralement hétérosexuel, et on savait que certaines personnes, et ça a toujours été le cas, étaient homosexuelles. Mais là, en l'occurrence, ces rapports Kinsey semblaient montrer qu'une proportion importante de la population avait aussi des fantasmes homosexuels, voire des pratiques homosexuelles, se trouvait être donc bisexuel. Il semblait montrer aussi que toutes sortes de ce qu'on considérait à ce moment-là comme des déviances étaient très largement partagées et pratiquées par la population américaine. Donc c'était entre guillemets une révélation sur la vérité, apparemment, de ce qui se passe dans l'intimité. Et on est à l'époque du McCarthyisme avec une société assez morale à ce moment-là, avec une certaine influence en particulier chrétienne. Et tout d'un coup, on a semblé découvrir que la société était très hypocrite. Et la conclusion étant qu'il fallait sortir de cette hypocrisie, il fallait mettre les religions de côté, enfin, et en particulier le christianisme de côté, et dire les choses simplement et normalement. Et puis, il fallait considérer aussi que donc il n'y avait pas de déviance et que tout était banal, acceptable, équivalent, etc. Alors, ces rapports Kinsey sont connus via statistiques, c'est-à-dire que Kinsey a lui-même recruté les personnes qu'il a interrogées, donc ce n'était pas un recrutement aléatoire. Il est allé chercher dans les milieux prostitutionnels, il est allé chercher dans les prisons, il a interrogé d'ailleurs également des pédophiles. Donc, il est resté ouvert à tout, mais en fait, avec des biais de recrutement. Et donc, évidemment, ça donnait des résultats ne correspondaient pas, par définition, à la population générale. Kinsey a aussi milité pour les bienfaits de la masturbation infantile. Il aurait prouvé que même un tout petit enfant pourrait avoir une sexualité, qu'il y trouverait du plaisir et que donc il était sain et souhaitable de l'y aider. Je vous le mentionne parce que c'est quelque chose qui influence, on va en reparler, qui en fait influence un certain nombre de propositions en éducation sexuelle, enfin de programmes d'éducation sexuelle. Donc Alfred Kinsey, à travers ses études théoriquement statistiques et factuelles de la sexualité humaine, est considéré comme un pionnier de la sexologie. Et comme il a dit que tout était équivalent, praticable, pratiqué, eh bien, il a fait partie de ceux qui ont eu une influence sur ce qui a conduit vers la révolution sexuelle des années 60-70. Alors, un élément important, par ailleurs, c'est que Alfred Kinsey était marié avec une femme, évidemment à l'époque, et il avait des désirs homosexuels qui le culpabilisaient énormément. Il vivait en union, enfin, avec sa femme, ils avaient un accord pour vivre librement. Donc, en fait, Alfred Kinsey était bisexuel, mais il se sentait extrêmement coupable au point de pratiquer sur lui-même, entre guillemets, pour se punir, de ce qu'on peut comprendre. Il avait des pratiques masochistes. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'était à vrai dire quelqu'un d'assez perturbé et très culpabilisé par ses propres désirs, ses fantasmes. Il avait besoin de dire que tout ça, c'était banal, c'était très répandu et qu'il fallait donc que ce soit admis de manière générale. Et donc, comme vous pouvez le comprendre, quand on voit tout le déroulé des supports d'éducation sexuelle qui parlent de toutes les pratiques sexuelles, toutes les possibilités en la matière, qui les expose, il y a aussi cette influence d'Alfred Kinsey. Et l'autre chose, c'est que s'il faut commencer l'éducation sexuelle extrêmement jeune, c'est parce que, et c'est l'OMS par exemple porte cette vision, il faut accepter que les enfants ont une forme de sexualité dès la naissance. Autrement dit, il y a une confusion entre le fait que l'enfant est une sensibilité et le fait que l'enfant pourrait prétendument avoir une sexualité. J'ajoute que si l'enfant peut avoir une sexualité, il y a malheureusement des adultes que ça intéresse. Donc tout ça n'est évidemment pas anodin. Et je vais évoquer le nouveau projet de programme d'éducation sexuelle. Et il y a des éléments qui sont troublants parce que on peut retrouver malheureusement des convergences. Quelques minutes pour vous exposer pourquoi ce projet de programme est inacceptable. Alors d'abord, vous le voyez, il s'applique. Ça, c'est dans la note de présentation, donc au début du document qui fait un peu plus de 40 pages. Vous voyez que ça s'applique dans les établissements publics et les établissements privés sous contrat. Vous voyez d'ailleurs aussi qu'on y parle théoriquement et officiellement de neutralité, mais assez vite, on voit que ce qui est dit en introduction, un peu comme tout à l'heure, ne correspond pas à ce qui est proposé ensuite. Alors, par exemple, je vais aller vite, je vous rassure, à aborder avant 4 ans, donc en fait en clair à 3 ans, donc en petite section de maternelle, il faut faire identifier par les enfants les parties intimes du corps, les nommer, et il faut aller vers un vocabulaire scientifique. Autrement dit, il s'agirait d'obtenir que les enfants parlent, pardonnez-moi, de pénis, de vulve et autres termes qui ne sont évidemment absolument pas de l'âge des tout-petits à 3 ans. Il s'agit aussi de lutter contre les stéréotypes de genre. Vous voyez, c'est ce qui est indiqué en bas en vert. Il faut, à partir de lecture d'albums et d'imagiers, expliciter les assignations de rôle et les stéréotypes perceptibles. Autrement dit, à l'âge où les enfants sont encore tout petits, évidemment très manipulables, en l'absence des parents, il s'agit de déconstruire les représentations mentales qu'ils se font déjà à cet âge-là et petit à petit, au fil des années, de l'homme et de la femme, et donc de même garçon ou fille. Il s'agit aussi de, par des exercices pratiques, donc on nous parle de l'utilisation mixte des espaces de jeu. Alors moi, je ne crois pas qu'il y ait tellement de maîtresses qui, dans une salle de classe, interdisent aux filles, aux garçons d'aller là ou là au motif que ce serait bleu ou rose. On fait comme si il y avait donc ces fameux stéréotypes, cette fameuse assignation à des rôles, et prétendument, les petits garçons auraient tout ce qu'ils veulent et pas les petites filles. Et donc, on explique bien qu'il faut développer le fait devant les enfants que le choix d'une activité et les goûts ne sont pas prédéterminés par le fait d'être une fille ou un garçon. Voir que ces idées-là, elles parcourent tout le projet de programme, enfin toute la nouvelle version du projet de programme, et c'est la raison pour laquelle le syndicat de la famille, dans un certain nombre de médias, dénonce vigoureusement ce projet de programme qui est une forme de rééducation, enfin, ou d'éducation, je dirais plutôt de rééducation très intrusive et qui vient heurter les schémas profonds chez les enfants, qui sont pourtant en train de se mettre en place. Donc, vous voyez, lutter contre les stéréotypes au prétexte et au motif de l'égalité filles-garçons, dépasser les stéréotypes, il y en a des caisses. Vous avez aussi, donc, à partir de 4 ans, la moyenne section de maternelle. Donc, il faut faire identifier par les enfants les différentes formes du cadre familial, donc les familles hétéroparentales, monoparentales, homoparentales, etc., etc. Parents vivant ensemble, parents séparés, enfants adoptés. Il y a toujours eu des familles dans lesquelles les parents sont veufs ou veuves ou séparés ou éventuellement des mères seules. Jusqu'à présent, on n'avait pas besoin de dérouler toutes les formes de famille, ce qui est d'ailleurs un principe très… On est dans le concept et donc ce n'est pas du tout adapté à l'âge des enfants, mais évidemment, surtout l'objectif, il est militant, il est de faire penser qu'il y a des enfants qui peuvent avoir deux pères ou deux mères et que c'est comme d'avoir un père et une mère, ce qui évidemment n'est pas le cas, et ce qui est leur faire croire incidemment que c'est littéralement faire comme si les enfants, deux hommes ou deux femmes, pouvaient avoir un enfant. Alors plus tard, des années plus tard, ils vont étudier la reproduction, et là ils verront qu'il faut être un couple formé d'un homme et d'une femme. Mais c'est là qu'on pourra leur expliquer les différentes méthodes pour contourner cette difficulté. Entre-temps, on leur aura fait croire que être père ou mère, c'est une question de volonté. Si je commande un enfant par GPA et je déclare que je suis sa mère, eh bien, je suis sa mère tout autant que ma mère qui a attendu et mis au monde un bébé. Donc, toujours la répartition des espaces de cours. Alors, vous avez peut-être vu qu'à Strasbourg, on a mis des petits GPS sur le dos des enfants d'un établissement scolaire pour mesurer l'espace utilisé par les filles, utilisé par les garçons. Alors, on nous dit que le résultat serait que les garçons utilisent 80% de l'espace de la cour de récréation, ce qui avait déjà été étudié en vérité, et ce qui n'a absolument rien d'extraordinaire. Les garçons et les filles n'aimant pas, d'une manière générale, jouer au même jeu. Et ça ne veut évidemment rien signifier une inégalité ou une supposée déjà domination des garçons sur les filles. On revient sur, là on est en CP, donc on revient encore sur les liens familiaux à partir de l'histoire. Il s'agit de démontrer la grande modernité de la diversité actuelle des structures familiales. Ce qui est curieux, c'est qu'ils ont du mal d'ailleurs à dire famille, famille. Ils disent structure familiale, ils disent cadre familial. C'est assez étonnant. On est toujours en CP, repérer les catalogues, enfin les stéréotypes dans les catalogues de jouets. Donc, vous voyez, de manière obsessionnelle, permanente, vous avez cette idéologie qui s'impose et qui vient en fait manipuler les enfants, culpabiliser les garçons, victimiser les filles, et qui vient leur dire, dès qu'il y a une différence, c'est qu'il y a une domination. Et qui vient dire aux enfants, vous ne vivez que de stéréotypes et toute la société se trompe, toute la société est injuste et inégalitaire, et donc il faut changer tout cela, il faut changer votre regard et tout. Donc on est vraiment complètement dans une rééducation idéologique. On est ici en cours moyen deuxième année, on est en CM2. Donc, vous pouvez voir sur la gauche qu'à partir du CM2, il faut parler des personnes intersexes. Alors, une personne intersexe, c'est une personne qui est née avec une pathologie, quelle qu'en soit l'origine, enfin une pathologie qui est à l'origine d'une ambiguïté sexuelle. Donc, ça peut être chromosomique, génétique, physiologique, enfin hormonale. Il peut y avoir, ça peut être anatomique. Il peut y avoir toutes sortes de cas différents. Encore une fois, c'est rarissime. Et évidemment, il s'agit ensuite de dérouler, il y a des personnes intersexes, donc l'humanité n'est pas forcément homme ou femme, donc à chacun d'évaluer et d'estimer ce qu'il est. Par ailleurs, vous voyez aussi à droite un grand sujet du féminisme actuel qui est là, en CM2, hein, analyser et critiquer une représentation dévalorisante liée aux règles. Donc c'est la victimisation féminine, néo-féministe, qui consiste à dire que il y aurait une dévalorisation sur ce sujet. Et donc, ce sujet politique, son entrée dans les salles de classe tôt. Vous avez ensuite, en sixième, la poursuite sur les stéréotypes. Et puis, vous avez la classe de cinquième. Vous pouvez voir la colonne de gauche. Il faut différencier sexe, genre, orientation sexuelle. Il faut, un peu plus bas, reconnaître et respecter la diversité des sexes, des genres, des identités de genre, des orientations sexuelles. Et voilà, à partir de la cinquième, on rentre concrètement dans des développements, des précisions, et donc on poursuit le lavage de cerveau. Et ce lavage de cerveau, parce que je crois que c'est véritablement le terme, se poursuit jusqu'au lycée. Alors, il y a quelques points qui sont positifs, mais malheureusement, ils sont bien trop rares et ils sont malheureusement noyés dans une hypersexualisation. Alors, on l'a vu par les contenus d'éducation sexuelle que j'ai présentés tout à l'heure, le programme ne détaille pas et ne présente pas les supports, mais tout se déroulait et dans la logique que nous connaissions déjà, mais va encore plus loin. Et donc, en termes d'hypersexualisation, de suggestion, d'idées, d'impudeur, de viol de l'intimité, malheureusement, on peut s'attendre au pire. Et en termes idéologiques, on est dans le lavage de cerveau. Alors, il ne s'agit pas de finir de manière négative, naturellement, et il ne s'agit pas du tout de désespérer. Tout cela pour dire que c'est pas fichu, qu'il faut agir et qu'on peut agir. Alors, il y a notamment cette pétition que nous avons lancée contre le projet de programme d'éducation sexuelle à l'école. Cette pétition, je vous invite à la signer, à la faire signer, à la diffuser, à la relayer. C'est vraiment très important. Et puis, il y a peut-être d'autres. Je crois qu'il y a aussi une pétition des AFC, il ne faut pas hésiter à la signer aussi. Il faut renforcer, pousser, se mobiliser et mobiliser sur ce projet de programme d'éducation sexuelle en sachant que la bataille n'est pas perdue, loin s'en faut. Vous avez par ailleurs, comme parents ou bien sûr comme grands-parents, un rôle fondamental auprès d'eux et qui vous permet malgré tout de les protéger, pas complètement, mais de veiller à ce qui se passe, mais aussi il est extrêmement important que les parents parlent d'amour aux enfants. Il peut mettre une sorte de vernis protecteur qui fait que même s'ils entendent des choses ensuite, ce sera moins, ils seront en partie protégés. Alors, pour veiller, bien sûr, il faut parler avec ses enfants. Il faut connaître les amis des enfants aussi et connaître leurs parents, parce qu'on apprend parfois aussi les choses par d'autres parents. Il faut bien sûr regarder les manuels scolaires avant la rentrée, au moment où on les commande ou on les recouvre en plastique. Il faut veiller au carnet de correspondance, aux interventions extérieures. Voilà, il faut être présent, actif, en veille. Et puis, comme toujours, les enfants parlent entre la poire et le fromage de manière inattendue. Et là-dessus, même si éventuellement vous ne pouvez pas répondre tout de suite ou lui poser des questions tout de suite, il faut absolument y revenir s'il y a des questions ou une inquiétude. Voilà. Je disais qu'il faut parler d'amour à ses enfants. Alors évidemment, toujours de manière très adaptée à l'âge, les petits sont très naturels avec ces questions-là. Ils demandent eux-mêmes comment on fait les bébés. On emploie forcément, bien sûr, on a une réponse adaptée à leur âge. Et il y a des très bons livres qui peuvent aider pour cela. Je pense au livre d'Inès de Franlieu. Voilà, il y en a qu'on peut trouver. Il faut bien les feuilleter, les regarder avant. Il faut pas être piégé en la matière. On voit bien, tout est très, très clivé, mais parfois aussi très pervers, dans le sens que c'est très implicite et il faut lire entre les lignes. Voilà. Un autre aspect évidemment très important, j'ai l'impression qu'il y a une répétition de mes slides, mais c'est pas grave. S'il y a une intervention extérieure sans information des parents, il faut très aimablement et sans agressivité, c'est très important, aller poser des questions, se renseigner, il faut pas laisser passer. Si bien sûr vous avez un enfant qui semble avoir été étonné, choqué, heurté, voire pire, eh bien, il ne faut surtout pas laisser passer. Il faut intervenir auprès de l'établissement scolaire. Et puis, il faut parler avec son enfant. Éventuellement, il faut voir un psychologue. C'est vraiment très important qu'il ne reste pas sur des propos ou des images ou autres qui auraient pu le choquer. Le syndicat de la famille est d'ailleurs à disposition et le droit des parents, les parents ont des droits, les enfants ont des droits, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Ce sont les parents qui sont les détenteurs de l'autorité parentale. Et donc, il est inscrit dans le code de l'éducation que l'école doit respecter l'action éducative des familles. Vous l'avez tout en bas du cadre rose. Il y a aussi dans le code pénal le crime de corruption de mineurs. Enfin, il y a différentes choses qui, sur le plan judiciaire, sont possibles si on est confronté à un cas grave. Les rectorats, avec le syndicat de la famille, nous nous rendons régulièrement devant des rectorats et nous sommes reçus par des équipes du rectorat. Les recteurs disent qu'ils n'entendent jamais parler de rien et que les parents sont tous contents. Donc, si on ne l'est pas, il faut le dire, il faut le signaler. De toute façon, si vous avez un problème dans un établissement scolaire, vous changerez peut-être votre enfant d'établissement scolaire, donc ça ne vous empêche pas de mener une action judiciaire. J'en profite pour vous dire que si des parents, en dehors de tout fait, sont partants pour faire partie d'une action, d'un recours devant le Conseil d'État, si le nouveau projet de programme sort et qu'il n'est pas bon, il y aura un recours d'un certain nombre d'associations et il s'agirait de constituer partie civile et donc avec des parents. Et si certains d'entre vous, vous pouvez avoir des enfants qui soient jeunes, tout jeunes ou un peu plus âgés, collège ou lycée, il ne faut pas craindre, les noms ne seront pas rendus publics et donc nous serions très
Ce serait formidable d'avoir des parents qui sont prêts à agir pour empêcher, pour agir devant la justice s'il était besoin à propos de ce nouveau projet de programme.